Amis auditeurs, bienvenue à vous tous pour notre émission Lire et méditer de cette semaine. Nicole avec vous pour donc découvrir une œuvre qui peut nous aider en tout cas à enrichir notre foi, à augmenter notre foi. Et j'ai choisi dans la série Prier 15 jours, c'est cette série éditée aux éditions Nouvelle Cité, où nous avons déjà d'ailleurs visité quelques saints et témoins. Et cette semaine, j'ai choisi, dans cette série Prier 15 jours, Prier 15 jours avec Gemma Galgani, par Philippe Play, donc c'est aux éditions Nouvelle Cité. Le père Philippe Play est religieux passionniste. Il est entré dans cette congrégation en 1992, ordonné prêtre en 1998. C'est un bibliste de formation, prédicateur de la Passion du Christ. Il accompagne aussi de nombreuses personnes dans le cheminement spirituel. Et qui est donc Gemma Galgani ? Une figure qui, pour ma part, j'ai trouvée vraiment passionnante. Sainte Gemma Galgani, qui est née en 1878 et morte en 1903, elle est donc morte assez jeune, à l'âge donc de 25 ans, est en fait la plus grande représentante italienne du culte du Sacré-Cœur. L'irruption du surnaturel dans sa vie va intensifier ses penchants naturels au lieu de les anéantir. Elle pouvait voir Jésus continuer à vivre une vie normale. En Gemma, tout est concentré. Elle est à la fois enfant, femme et sainte. La vie de Gemma nous offre d'abord un vivant tableau de l'enfance spirituelle. Son ange gardien fut son éducateur. Il la choyait et la grondait comme un grand frère plein de tendresse. Gemma fut aussi femme, et combien femme, une femme passionnée d'amour pour l'homme Dieu Jésus. Et ses nombreux dialogues nous la montrent séduite, conquise puis offerte. Gemma fut sainte, sachant remettre tout son être entre les mains de son Créateur et Sauveur. À 21 ans, elle reçoit la grâce des stigmates. Il s'agit là d'une grande mission. Mourir publiquement d'amour. Et afin de l'accompagner dans cette mort d'amour, eh bien, un religieux passionniste va devenir son directeur spirituel. Donc, dans cette série Prier 15 jours, c'est très intéressant parce que, bien sûr, c'est toujours basé sur les écrits même du saint ou du témoin dont il va s'agir. Il y a toujours une petite biographie que je vais vous lire. Et puis, ensuite, il y a donc ces différentes étapes pendant 15 jours, découvrir ce témoin, ce saint ou cette sainte. Pour Gemma, les chapitres se divisent ainsi. Il y a bien sûr donc l'introduction, puis l'enfance spirituelle d'une enfant, la jeune fille fiancée, l'ange gardien d'un ange, le dénuement extérieur, une vie cachée, à la recherche d'une vie consacrée, les stigmates, une direction spirituelle passionniste, Satan contre Gemma, Gemma est-elle folle, l'Eucharistie voile du Sacré-Cœur, vision et extase, réparation pour le salut du monde, maladie d'amour, Gemma éternellement séduite. Et bien sûr, une conclusion. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner un bel aperçu de la biographie, de la chronologie. Donc, Gemma née le 12 mars 1878 à Camillane, auprès de Luc en Italie, de Luca, cinquième d'une famille de 8 enfants. À 7 ans, elle reçoit le sacrement de confirmation. Sa mère meurt en septembre de la même année. Au cours de sa première expérience surnaturelle vécue lors de sa confirmation, Jésus l'avait préparée à cette douleur en lui demandant de lui donner sa maman. À 9 ans, le 19 juin 1887, elle fait sa première communion. C'est la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Ce sera pour elle une expérience spirituelle intense. En ces instants, je saisis que les délices du ciel ne sont pas comme ceux de la terre. Ce fut ce matin-là que Jésus me donna le grand désir d'être religieuse. Gemma fut envoyée à l'école des religieuses d'Itine. Alors qu'elle avait juste 13 ans, sa maîtresse, voyant son grand désir de connaître la passion de Jésus, lui en fait chaque jour méditer un point. Une grande épreuve l'attend l'année de ses 16 ans. La mort de son frère Gino, lui âgé de 17 ans. Elle en conçoit un immense chagrin jusqu'à en tomber gravement malade. À 18 ans surviennent les grandes faveurs surnaturelles qui vont transformer sa vie. Pour la première fois, elle voit son ange gardien. Il lui demande un grand dépouillement de sa coquetterie, afin d'être digne de devenir l'épouse d'un roi crucifié. Et Jésus lui fait comprendre fortement qu'elle doit être religieuse. Longtemps, Gemma garde ce désir caché dans son cœur. Or, son père meurt l'année suivante, laissant sa famille dans la misère. Durant quelques mois, elle vit à Camaiore, chez une de ses tantes, avant de revenir à Lucca pour fuir les prétendants décidés à n'être qu'à Jésus. Au cours des années 1898-1899, Gemma est atteinte d'une maladie mortelle. C'est alors que lui apparaît Gabriel de la Dolorata, mort très jeune comme Gemma à l'âge de 24 ans, en 1862. Tout le reste de sa vie, elle éprouvera un amour intense pour ce saint passionniste, devenu en 1926 patron de la jeunesse catholique italienne. La congrégation des passionnistes fut fondée en 1741 par Paul de la Croix. Le 3 mars 1899, par l'intercession de Marguerite Marie à la Coque, elle guérit miraculeusement. Commence alors pour elle une vie amoureuse quotidienne avec Jésus et une familiarité surnaturelle avec les saints. Elle est âgée de 21 ans. En mai 1899, elle tente en vain d'entrer chez les visitandines. Pourtant, Jésus pense à elle. Le soir du jeudi 8 juin, vigile de la fête du Sacré-Cœur, elle reçoit la grâce des stigmates. L'expérience durera jusqu'au vendredi à 15h et les stigmates se renouvelleront chaque semaine du jeudi 20h au lendemain 15h. Son confesseur ordinaire, Mgr Volpi, ne la comprend plus. Il l'a fait examiner le 8 septembre par un médecin qui conclut un cas d'hystérie. C'est alors que les pères passionnistes viennent animer à Lucca une mission pastorale, paroissiale. Elle reconnaît immédiatement en eux l'habit de Saint Gabriel. Jésus lui confie « L'un de ses fils sera ton père ». Au cours de ce même mois de septembre, les extases de Gemma commencent néanmoins à être prises en note. Elle parlait tout haut en ces moments. L'année suivante, Gemma est accueillie par la famille Giannini, chez qui elle rencontre le père passionniste Germano Ruopolo. En janvier, elle débute sa correspondance avec le père Germano, qui devient son directeur spirituel et que toute sa vie, elle appellera papa. Elle a 22 ans. Entre juillet et septembre 1900, sur ordre de Mgr Volpi, elle rédige son journal. Le père Germano, qui avait conseillé à Mgr Volpi de faire cesser cette rédaction, demande cependant à Gemma de rédiger un autre écrit couvrant cette fois l'ensemble de sa vie, son autobiographie. En 1902, à partir de la fête de la Pentecôte, son état de santé devient inquiétant. Jusqu'à la fin juin, elle cesse de s'alimenter, ne prenant comme nourriture que la communion du matin et un peu d'eau. Elle a 24 ans. C'est une période d'intense réparation offerte au Sacré-Cœur et de particulière intercession pour le clergé. Elle retrouve la santé à la fin du mois de juin, mais pour peu de temps. Son rétablissement n'était qu'un signe temporaire du Seigneur, destiné au père Germano. Sa jeune sœur, Giulia, que Gemma chérissait tendrement, meurt le 19 août à l'âge de 18 ans. Le 21 octobre, c'est le tour de son frère Antonio. C'est dans cette grande solitude affective qu'apparaissent le 21 septembre chez Gemma les premiers symptômes de la tuberculose. En janvier 1903, elle est transférée dans une petite chambre d'un immeuble voisin de celui des Giannini, où elle meurt le 11 avril 1903 vers 13h30. Elle n'a que 25 ans, c'est le samedi saint. Et tandis que l'Église s'apprête à célébrer la résurrection du Christ, une foule défile dans la chambre de celle qu'on appelle déjà la petite sainte. Les premières religieuses passionnistes arrivent à Lucca en mars 1905 pour fonder le monastère tant désiré par Gemma. Aujourd'hui, ce sont les moniales de Lucca qui gardent le sanctuaire de la sainte, ainsi qu'elle avait prophétisé peu avant sa mort. Les passionnistes ne m'ont pas voulu vivante, mais elles mourront mortes. Gemma Galgani fut béatifiée par Pie XI le 14 mai 1933, canonisée le 2 mai 1940 par Pie XII. L'Église fête généralement cette grande sainte le 16 mai. Voilà donc brièvement un petit peu la vie de cette grande sainte. Alors maintenant, j'espère que cela vous aura aussi donné envie de mieux la connaître. Je passe l'introduction, mais qui est très importante, qui est capitale. On ne peut pas vraiment passer sous silence. Voyons donc, si vous le voulez bien, un de ces jours, un de ces 15 jours avec elle, avec Jem. Et nous allons prendre celui de l'ange gardien parce que c'est assez saisissant cette relation particulière. Voici ce qu'elle écrit. « À partir du moment où je me levais, l'ange gardien commença à se faire mon maître et mon guide. Il me reprenait chaque fois que j'avais fait quelque chose de mal. Il m'enseignait à parler peu et seulement lorsque j'étais interrogée. Un jour qu'à la maison on parlait de quelqu'un sans en dire beaucoup de bien, je voulus prendre la parole et l'ange m'en fit un très gros reproche. Il m'apprenait à tenir les yeux baissés. Et même à l'église, il me reprenait très fort en disant « C'est ainsi que tu te tiens en présence de Dieu ?» D'autres fois, il me criait « Si tu n'es pas sage, je ne me ferai plus voir de toi. » Plusieurs fois, il m'apprit à me tenir en présence de Dieu, à l'adorer dans son infinie bonté, son infinie majesté, sa miséricorde et tous ses attributs. On se demande souvent « À quoi servent les anges dans la vie spirituelle ?» nous dit Philippe Plais, le père Philippe Plais. La vie de Jem nous plonge dans le commerce intime et quotidien de l'ange gardien. C'est l'une des très belles surprises qu'elle nous réserve. L'ange gardien fit irruption visiblement dans la vie de Jem qu'un an avant la mort de son père. Elle avait 18 ans. C'était sans doute pour la préparer à cette terrible épreuve et l'aider à prendre le grand virage spirituel que Jésus lui proposait. La jeune fille, à cet âge, commençait à devenir fort belle. Et bien que refusant toutes les propositions, pourtant coquettes, et elle s'est trouvé plaisir aussi dans les belles toilettes que lui offrait son père. Une montre en or qui lui avait été offerte fut l'occasion de sa première rencontre avec son ange gardien. Très fière de sa monture et de la chaîne en or qui la retenait, elle se fit une joie lors de sa promenade suivante d'exhiber son cadeau dans toute la ville. Une futilité qui allait provoquer une remise en ordre de la part de Jésus. Elle-même d'ailleurs raconte l'apparition qui eut lieu à son retour. J'allais me déshabiller lorsque je vis un ange, maintenant je sais que c'est mon ange, qui me dit très gravement « Souviens-toi que les bijoux précieux qui ornent l'épouse d'un roi crucifié ne peuvent être que les épines et la croix. » Jem ressentit cette crainte typique qu'inspire un être spirituel quand il se manifeste à une âme. « Les paroles de l'ange lui firent particulièrement peur, précise-t-elle, car elle lui prophétisait un chemin de foi, certes suave, mais également douloureux et si mystérieux. » Et c'est la première fonction de l'ange que d'être un messager de Dieu. À ce titre, l'ange gardien de Jem intervient au grand moment de son ascension d'amour. Il lui apportait ainsi des invitations de la part de Jésus ou lui annonçait simplement la venue de son maître. Pour Jem, exceptionnellement, son ange gardien acceptait de porter certaines des lettres de sa protégée, soit au ciel, à Saint-Gabriel, soit aussi sur la terre, à son directeur spirituel, le père Germano. Et cela fonctionnait bien, car ses correspondants lui répondaient effectivement. Elle mettait ses lettres dans une boîte posée sur une commode de sa chambre. Elle fermait la boîte à clé, le lendemain sa lettre avait disparu. Son ange venait la chercher pour la porter, par exemple, au père Germano, à plusieurs centaines de kilomètres de Lucre, comme son grande humilité et la gentillesse des anges. Et Jem va continuer de dire aussi cette relation particulière qu'elle a avec son ange gardien, notamment l'ange gardien qui agit comme pédagogue, c'est-à-dire à partir du moment où je me levais, dit-elle, l'ange gardien commença à se faire mon maître et mon guide. Il me reprenait chaque fois que je faisais quelque chose de mal. Gemma n'hésite pas à le trouver même sévère. Et lors de sa première manifestation à sa fille de la terre, l'ange lui avait parlé « sérieux, sérieux », écrivait Gemma dans son style d'enfant. Souvent, lorsqu'elle tardait à lui obéir, il la menaçait d'une sanction grave. « Si tu n'es pas sage, je ne me ferai plus voir de toi ». S'entretenant un jour avec la Vierge Marie, Gemma lui confia « Mon ange gardien est méchant. Pourquoi me punit-il? Qu'ai-je fait? Une curiosité? Je ne m'en souviens pas. Viens me voir, toi. Il est trop sévère, cet ange. » Mais c'est un autre passage qui nous révèle à la fois la pureté du cœur d'enfant de Gemma et la puissance de sévérité dont un ange est capable. « Hier, écrit-elle, pendant que je mangeais, j'ai levé les yeux et vu que mon ange gardien me regardait d'un air si sévère que c'en était effrayant. Il ne disait mot. Plus tard, j'allais un moment au lit. Mon Dieu, il me donna de le regarder en face. Je le regardais et baissais aussitôt les yeux. Mais il insista en disant « N'as-tu pas honte de commettre des fautes en ma présence ? Quand tu as péché, sois honteuse. » Il insistait pour que je le regarde. Durant plus d'une demi-heure environ, il me fit rester en sa présence et le regardait toujours en face. Il me lançait certains regards d'une sévérité. Mais dans d'autres passages, elle dévoilera combien cet ange était aussi son grand frère, qui était aussi un compagnon plein de tendresse et qui l'aidait pour la prière. Notamment des temps d'adoration ensemble. Voilà, en tout cas, c'est très beau. Et bien voilà, ce chapitre va se conclure, je ne vous ai pas tout lu, mais va se conclure avec cette très belle prière de l'ange que je vous propose. « Ô mon bel ange qui m'assiste avec tant d'humilité et de bienveillance en cette vie, permets-moi de t'aimer comme Gemma aima le sien. » Donc d'autres chapitres très beaux, avec Gemma bien sûr en avançant dans cette voie vraiment de l'humilité, de la folie amoureuse, on peut dire. Et bien, je vous propose pour conclure quelques petits extraits du chapitre concernant la réparation pour le salut du monde. Voici ce qu'elle écrit. Ainsi Jésus n'abandonne pas ses pauvres pécheurs, mais je suis prête à faire quelque chose. Tu es mort sur la croix, fais-m'y mourir aussi. Ils sont tous tes fils. S'ils sont tes fils, ne les abandonne pas. Moi, Jésus, je veux les sauver tous. Si toi, Jésus, tu les abandonnes, alors il n'y a plus d'espérance. Je veillerai jusqu'à ce que tu m'aies dit que tu veux les sauver tous. N'est-ce pas moi qui dois souffrir pour eux? Donc, prends-en à moi. Des pécheurs, tu en as beaucoup, mais des victimes, bien peu. Les victimes, tu les veux innocentes, et moi, je ne le suis pas du tout. Sauve-les, Jésus, sauve-les. Moi, j'ai tant péché, et tu as eu miséricorde. La croix du Christ est la plus grande œuvre de réparation du monde. Et cette réparation, elle est spirituelle. Elle nous rétablit dans une possible relation avec Dieu. Le péché est substantiellement un refus de Dieu. C'est donc à ce niveau même que Jésus, par sa passion, a ouvert à l'humanité le ciel qui lui était fermé. Vivre de la spiritualité de la passion nous entraîne jusqu'à la contemplation du salut du monde. Mais comment participer au salut du monde ? Eh bien, la passion de Jésus ne peut pas être regardée comme un acte posé une fois pour toutes par Dieu au cœur de l'histoire humaine et qui dès lors n'aurait plus besoin d'être vécu par ses disciples. Affirmer que le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde est une évidence de foi que tous les saints ont accueillie sans réserve. Certes, par sa passion, Jésus a ouvert aux hommes la possibilité du pardon divin que lui seul pouvait accomplir. Pourtant, cela n'implique pas que les croyants ne soient pas appelés à participer à sa grande œuvre de miséricorde, bien au contraire. La suite, je ne vous la lis pas, chers amis auditeurs, je vous invite bien sûr à vous plonger dans ces très belles lettres de Gemma Galgani, vraiment. Et il y avait un passage, mais je n'aurai certainement pas le temps, peut-être, oui, peut-être un petit peu, voilà aussi avec son directeur spirituel, pardon, Donc ça, c'est très important aussi. Jem, à tout ce qu'elle vit, elle va le soumettre aussi à l'autorité de l'Église. C'est ça qui est beau. Et la direction spirituelle qu'elle reçoit, donc c'est celle des passionnistes. Voici ce qu'elle décrit. « Je ressens un très grand désir de m'envoler avec Dieu. Oui, papa, que dans quelques jours, vous puissiez dire « Jem a été victime d'amour. C'est d'amour uniquement qu'elle est morte. Quelle belle mort !» Non, je ne me sens pas en paix si Jésus ne m'enflamme pas un peu de son amour. Je désire être consumé, que mon cœur soit transformé en cendre, afin que tout le monde dise le cœur de Jem a été réduit en cendre par Jésus. » Voilà, ça c'est ce que Jem donc écrit, et c'est les lettres qu'elle écrit au père German, qu'elle appelle papa. Comment Dieu alors suscite-t-il une paternité spirituelle ? Beaucoup de personnes se demandent aujourd'hui si elles n'auraient pas besoin d'un directeur spirituel et comment le choisir. Bien, à chaque âge de sa vie, Jem va trouver des guides adaptés pour l'accompagner sur le chemin de la foi. Tout d'abord, c'est sa maman. Et puis, c'est les sœurs Zitin à l'école. Puis, Monseigneur Vol, puis jusqu'à cette période des stigmates. Mais cette grâce extraordinaire marquait une étape spirituelle vraiment nouvelle pour Jem. L'adage oriental affirme avec raison « Quand le disciple est prêt, le maître paraît. » Mais quel maître pour une telle disciple ? Eh bien, Jésus lui suscita un père. La découverte des religieux passionnistes devait conduire Jem à connaître celui que Jésus lui destinait comme père spirituel alors qu'elle était malade. Gabriel de la Dolorata lui était apparu vêtu en passionniste. Il était le premier passionniste dont elle fit la connaissance. Or, fin juin et début juillet 1899, un groupe de ces religieux vint prêcher une mission à Luc. Quel ne furent pas son étonnement et sa joie de les voir porter la même tenue que Gabriel. Pendant le dernier jour de la mission, le Seigneur, lui montrant un des passionnistes, lui demanda « Cela te plairait-il d'être toi aussi revêtu du même habit ?»« Mon Dieu, m'exclamai-je, dit-elle. « Et oui, continua Jésus, tu seras une fille de ma passion, une fille de prédilection. L'un de ses fils sera ton père. Va et révèle tout. » Bon. Évidemment, là, j'ai choisi une mystique, hein, une mystique extraordinaire hein, qui voilà, parlait déjà avec le ciel, hein, le Jésus, que ce soit son ange gardien, etc. Donc, elle, bien sûr, elle a bénéficié de grâce, d'extase. Mais ce surnaturel, comme on le dit souvent, ce n'est pas ça qui fait de Jem à quelqu'un de remarquable. Ce qui fait de Jem quelqu'un de remarquable, c'est que c'est une femme passionnée d'amour pour Jésus. Et c'est cette passion qui l'a conduit à, bien sûr, avoir aussi cette intimité particulière avec le Seigneur. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi, bien, pour rentrer un petit peu dans cette flamme, dans ce feu d'amour dans lequel le Seigneur veut porter chacun d'entre nous. Peut-être certainement pas en nous faisant les grâces de l'extase, mais en nous donnant en tout cas une foi, une communion de cœur avec lui, eh bien, qui dépasse tout entendement. C'est ce que je vous souhaite et ce que je vous invite à découvrir avec Jem Galgani. Je vous proposerai la semaine prochaine une autre sainte, morte également elle aussi très jeune, qui est presque notre contemporaine, on peut dire, qui était... Et vous verrez cette sainte aussi merveilleuse qui, elle, vivra une autre passion. Mais je n'en dis pas plus. Je vous invite à me retrouver la semaine prochaine pour notre émission Lire et Méditer. Merci pour votre écoute.